La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour, je m'appelle Gaël Cousandet, je suis pasteur de l'Église adventiste à Toulouse. En ce jour du 25 décembre, je vous souhaite un très joyeux Noël. Peut-être que vous êtes en famille, avec toute la joie et les défis que cela représente, ou peut-être êtes-vous seul. Pour certains, l'approche de ces fêtes de fin d'année n'est pas toujours synonyme de joie et de paix. C'est parfois même un moment où certains ressentent davantage la solitude ou qui fait remonter des souvenirs douloureux. C'est pour cela qu'il est important de replonger dans la signification de Noël pour y retrouver toute l'espérance qui en est la raison d'être. Car oui, Noël est le jour de l'espérance. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Que l'on soit croyant ou non, on sait que Noël n'est pas qu'une fête commerciale tournant autour des cadeaux et des repas. Et l'on passera rapidement sur le fait qu'à l'origine, Noël était une fête païenne qui a plus tard été adoptée par les chrétiens. Passons, ce n'est pas ça le plus important. Ce que nous voulons rappeler aujourd'hui, c'est qu'il y a 2000 ans, a eu lieu l'incursion extraordinaire de Dieu dans l'histoire humaine à travers Jésus-Christ, et que cet événement ouvre la porte à une espérance inédite. Alors, remontons dans le temps jusqu'au début de notre ère. Nous sommes à Jérusalem. Un couple s'approche du magnifique édifice du temple. L'homme est plutôt âgé, la femme semble beaucoup plus jeune et elle tient un bébé dans ses bras. Dans la rue, n'importe quel juif pourrait vous donner la raison de leur présence sans même avoir parlé avec eux. En effet, la loi de Moïse prescrit aux femmes de venir faire une cérémonie 40 jours après un accouchement et il y a un impôt à payer au sanctuaire pour la naissance d'un premier enfant. D'ailleurs, le couple n'a visiblement pas beaucoup de moyens. Au lieu d'acheter un agneau, ils ont offert deux pigeons. C'est la dérogation pour le sacrifice des pauvres. Pour tous les commerçants qui tiennent leur boutique autour du temple, c'est une scène ordinaire qu'ils connaissent par cœur. Donc voilà, le décor est planté. Et voici maintenant la suite de l'histoire telle qu'elle est racontée par l'évangéliste Luc, chapitre 2, à partir du verset 25. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. » Luc continue en racontant à quel point ce jeune couple était étonné de ce qui se passait, et on peut le comprendre. Voici qu'un vieillard apparaît de nulle part et semble les connaître. Il était surtout intéressé à voir l'enfant. Avec infiniment de douceur, il l'a pris dans ses bras en pleurant de joie. Enfin, il a pu voir s'accomplir ce qu'il avait attendu toute sa vie. Il peut mourir heureux. Il sait maintenant que tout n'est pas perdu et qu'il y a de l'espoir pour Israël et pour l'humanité. Cette scène touchante témoigne d'une attente profonde inscrite dans le cœur du vieux Siméon. Le langage utilisé par Luc laisse transparaître le contenu de cette attente. Tout d'abord, il parle de la consolation d'Israël. Être consolé, ça implique de la tristesse, de la souffrance, du déchirement. Le petit peuple d'Israël a subi ce qui arrive toujours lorsque les grandes nations s'affrontent. Comme le dit un proverbe africain, lorsque les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Mal guidé par des élites corrompues, Israël a subi les dominations brutales des empires égyptiens, assyriens et babyloniens, signant de multiples fois la destruction de leur pays jusqu'à l'exil. Malgré l'espoir de renaissance du retour en Palestine, à l'époque de Simon, le peuple survit tant bien que mal sous la férule de l'Empire romain. Oui, les petits qui subissent toujours ont bien besoin de consolation, de considération et de paix. Et puis, il y a cet autre mot. Siméon dit que ses yeux ont enfin vu le salut que Dieu avait préparé. Là, on est au-delà de la consolation. Quand on a besoin d'être sauvé, c'est qu'on est face à un danger mortel. Le salut, c'est une question de vie ou de mort. Et dans la bouche de Siméon, ce salut préparé par Dieu va éclairer le monde entier et devenir une lumière pour les nations. Là encore, si l'on a besoin de lumière, c'est qu'il y a de l'obscurité, synonyme de mal et de souffrance. Et Siméon termine en disant que ce salut est la gloire d'Israël. Oui, Israël recevra de la gloire car c'est par lui que va venir la bénédiction pour toutes les familles de la terre, selon la promesse de Dieu à l'ancêtre Abraham. Voilà donc tout ce que Siméon voit dans l'enfant qu'il tient dans ses bras. Consolation, salut, lumière et gloire. Mais pourquoi ? Il y a un dernier mot qu'il est important d'expliquer ici. Luc dit que Siméon avait reçu de Dieu la promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Voilà, le mot est lâché, Christ. C'est un mot qui fait tellement partie du vocabulaire religieux qu'on en a oublié le sens. Aujourd'hui, quand on dit le Christ, c'est juste un synonyme de Jésus. Mais pour un juif du 1er siècle, un homme comme Siméon, c'est un mot chargé de toutes les espérances de l'histoire de son peuple. Christ, Christos en grec, c'est la traduction du mot Mashiach en hébreu, le Messie. Cela veut dire celui qui est oint, celui sur lequel on a versé de l'huile. C'était par ce geste que l'on intronisait les rois, les prêtres et les prophètes en Israël. Le récit de Luc laisse entendre que le vieux Siméon attendait quelqu'un qui serait roi, prêtre et prophète et qui apporterait consolation, salut, lumière et gloire à Israël, un sauveur. Cette histoire témoigne d'une attente inscrite profondément dans le cœur de chaque juif depuis des centaines de générations. En effet, ce fameux Messie a été annoncé de multiples manières par les écrivains et les prophètes qui ont transmis leur message dans les rouleaux lus tous les Shabbats, au temple et à la synagogue. Et si l'on fait un rapide tour de ces textes, il est fascinant de lister les détails qui décrivent ce Messie annoncé. Tout d'abord, sa généalogie. Peut-être avez-vous un jour ouvert une Bible à la page des Évangiles et vous avez été surpris de voir Matthieu et Luc inclure de longues généalogies de Jésus. On saute généralement ces passages pour lire les récits, mais ces généalogies ont une raison d'être parce qu'elles viennent attester que Jésus est bien issu de la lignée annoncée. Nous trouvons la première prophétie messianique dans le 3e chapitre de la Genèse tout au début de la Bible. Lors du récit de la chute, alors que Adam et Ève viennent de manger du fruit de l'arbre défendu, Dieu leur annonce toutes les conséquences du péché. Mais au milieu de toutes ces catastrophes annoncées apparaît une lueur d'espoir. Dieu annonce que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent tentateur. Et peu après, Dieu revêt de peau de bête Adam et Ève comme pour dire qu'un sacrifice permettrait de couvrir leur nudité de péché. Le Messie serait donc un descendant d'Ève, donc un humain. Plus tard, un certain Abraham reçoit la promesse qu'à travers sa descendance, toutes les familles de la terre seraient bénies. C'est Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3. Le Messie serait donc de sa lignée. Puis, au chapitre 49, toujours de la Genèse, son petit-fils Jacob bénit ses 12 fils qui deviendraient les 12 tribus d'Israël. Et parmi eux, il bénit particulièrement Judas en annonçant que c'est dans sa tribu que se trouverait la lignée des rois. Et effectivement, c'est dans cette lignée qu'apparaît le fameux roi David. Or, lui-même reçoit la prophétie que la royauté serait éternelle dans sa descendance. On le voit, petit à petit, les prophéties se sont faites plus précises, jusqu'à annoncer que le sauveur attendu serait de la lignée du roi David. C'est pour cela que les Juifs archivaient scrupuleusement les données d'état civil des naissances et des familles pour identifier un jour le Messie. C'est en se basant sur ces documents que les évangélistes ont inclus des généalogies de Jésus pour montrer qu'il provient bien de cette lignée. Or, toutes ces archives ont disparu lors de la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Il serait donc aujourd'hui bien difficile pour qui que ce soit de prouver qu'il est bien un descendant de la lignée royale de David. Mais au-delà de la généalogie, les évangélistes ont reconnu dans les anciens textes bien d'autres éléments qui donnaient des détails sur le Messie annoncé. Par exemple, le prophète Ésaïe a écrit, je cite, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » C'est dans le chapitre 7, verset 14. Un petit peu plus loin, chapitre 9, verset 5, il écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Alors on croirait un texte tiré d'un cantique de Noël, mais c'est un prophète juif qui a écrit cela plus de 6 siècles avant notre ère. On connaissait même le lieu de la naissance du Messie puisque le prophète Michée a annoncé qu'il naîtrait à Bethléem, c'est-à-dire la ville natale de David, donc c'est dans Michée chapitre 5, les versets 1 à 4. Pour ce qui est de la vie du Messie, Ésaïe annonça son ministère avec ces mots, je cite, « L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » C'est un texte que Jésus lui-même va lire à la synagogue au début de son ministère. Mais écoutons maintenant ce qu'annonçait le prophète Zacharie. « Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi. Il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. » Extraordinaire. L'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, assis sur un âne, avait été annoncée. Et s'il est vrai que beaucoup de prophéties messianiques annonçaient un roi victorieux, d'autres textes annonçaient un humble serviteur souffrant du rejet de son peuple. Jérémie annonce son arrestation dans ses Lamentations, chapitre 4, verset 20, et les psaumes donnent des détails étonnants sur le supplice que subirait le Messie. Ses habits seraient tirés au sort, psaume 22, verset 19. Il souffrirait de la soif et on lui donnerait du vinaigre à boire, psaume 60, verset 21. Ses os ne seraient pas cassés, on lui percerait les mains et les pieds, psaume 22, verset 17. Et il serait percé aux côtés, sous-entendu par une lance, Zacharie, chapitre 12, verset 10. Et enfin, le magistral poème d'Ésaïe 53 parle du Messie comme une brebis menée à l'abattoir qui va mourir pour les péchés de son peuple. Et ce n'est pas terminé puisqu'il y a même un psaume qui annonce la résurrection du Messie, psaume 16, et un autre qui annonce qu'il remonterait au ciel, psaume 68. Voilà, ceci n'est qu'un bref aperçu de toutes les prophéties qui annonçaient le ministère du Messie. Et je ne résiste pas au plaisir d'en partager deux exemples supplémentaires. Dans le récit de Genèse chapitre 22, Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils. Et lorsque le patriarche obéit, au dernier moment, Dieu arrête sa main pour lui montrer un bélier pris dans les branches qui remplacera son fils pour le sacrifice. C'est une annonce que Dieu pourvoirait par son Messie au sacrifice permettant d'éviter celui des hommes. Ou encore dans le livre de l'Exode, on se souvient du peuple d'Israël réduit à l'esclavage en Égypte. Dieu envoie Moïse accomplir 10 plaies pour faire plier le pharaon et libérer le peuple. La dernière plaie est la plus terrible. L'ange de la mort parcourt le pays et prend la vie de tous les premiers-nés. Alors le peuple d'Israël reçoit l'instruction d'appliquer du sang d'un agneau sur les montants de leurs portes pour indiquer à l'ange qu'il ne pouvait exercer son œuvre mortelle dans ses maisons. Là aussi, la mort d'un agneau permet à la vie de triompher. Et cet épisode deviendra la fête de la Pâque que Jésus lui-même va vivre et enrichir par la Sainte Cène. Alors je m'excuse pour cette énumération qui ressemble un peu à un catalogue, mais elle permet de souligner à quel point l'histoire du peuple juif était pétrie de l'attente du Messie. Or, cette annonce constitue une révolution extraordinaire pour la vision du monde antique qui introduit l'idée de l'espérance. Elle concerne la vision du temps. Je m'explique. Dans le monde antique, et particulièrement le monde grec, la vie est une tragédie écrite à l'avance et le temps est circulaire. Tout projet et toute volonté se heurtent au destin inéluctable. Quoi que l'on fasse, le temps retournera à son point de départ et tout ce que nous aurons fait sera réduit à néant. Il ne reste plus qu'à s'en accommoder, soit en faisant des choix altruistes, comme dans la philosophie stoïcienne, soit en profitant au maximum de la vie, comme les hédonistes. Mais personne n'échappe à son destin, de même qu'aucune étoile n'échappe aux lois du cosmos qui fixent sa trajectoire pour l'éternité. Mais avec son attente messianique, ce petit peuple juif introduit une révolution. Le temps n'est plus circulaire puisque l'histoire va quelque part. Le destin n'est pas écrit à l'avance puisqu'il peut y avoir du changement et que les humains peuvent participer à ce changement en accueillant et en collaborant avec le Messie promis. L'histoire a un projet en construction, il y a donc de l'espérance. À Noël, nous nous rappelons que la vie n'est pas un accommodement à un destin écrit à l'avance, mais c'est la possibilité d'un projet et d'un avenir. Comme le dit le prophète Jérémie, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est déjà une formidable aventure qui est offerte aux hommes. Mais cela ne s'arrête pas là. Au 1er siècle de notre ère, un certain nombre de Juifs ont reconnu dans Jésus de Nazareth le Messie annoncé par toutes ses prophéties. Ils ont marché à ses côtés pendant 3 ans. Ils ont été témoins des événements prédits et ils ont partagé leur témoignage à travers les écrits qui ont constitué le Nouveau Testament. Et c'est par ce témoignage que les croyants de toutes les générations ont cru en Jésus le Messie jusqu'à maintenant. Pourtant, cette reconnaissance n'allait pas de soi. On a listé un certain nombre de prophéties sur le Messie, et elles apparaissent tellement précises qu'il peut sembler difficile de passer à côté de l'événement qu'elles annoncent. Et pourtant, comment se fait-il que ce Jésus de Nazareth n'ait pas été accueilli à bras ouverts ? Pourquoi les hésitations, les doutes et même les oppositions qui vont aller jusqu'à l'éliminer ? Nous sommes là au cœur de la question la plus importante de la foi. Qui était ce Jésus de Nazareth ? Était-il le Messie annoncé ? Est-il le sauveur du monde ou alors un imposteur de plus ? Cette question a agité les foules autour de Jésus de Nazareth dès le début de son ministère. On connaît l'opposition frontale de certains responsables religieux qui se sont peut-être sentis menacés par ce jeune rabbin qui bousculait les codes trop bien établis. De plus, il mettait en danger la nation même d'Israël en risquant de trop attirer l'attention des Romains qui n'hésiteraient pas à détruire le peuple au moindre soupçon de révolution. Mais la question s'est posée tout autant pour ses propres disciples et les observateurs plus ou moins proches de Jésus. Les récits des évangiles ne gomment pas leurs questionnements, leurs doutes et leurs incohérences, comme pour accompagner les générations suivantes qui seraient confrontées aux mêmes difficultés. En effet, comment reconnaître dans ce Jésus de Nazareth celui que les prophéties ont annoncé comme un roi puissant, envoyé de Dieu pour la justice et la restauration d'Israël parmi les nations ? Comment voir le sauveur annoncé dans ce jeune rabbin originaire d'une bourgade quelconque ? Oui, les disciples pouvaient voir Jésus réaliser des miracles, mais ils ne comprenaient pas pourquoi il semblait si réticent à en faire de la publicité. Oui, il nourrissait des foules avec quelques bouts de pain, mais il se cachait dès qu'on parlait de le couronner. Au lieu de proclamer qu'il était le Messie, il laissait les gens se faire leur propre idée sans jamais l'imposer. Et bien sûr, comment comprendre que celui qui avait marché sur l'eau et apaisé des tempêtes s'est laissé arrêter, maltraiter, jusqu'à être tué sur une croix ? Il est facile de jeter la pierre à tous ceux qui se sont trompés à l'époque, des chefs religieux aux disciples. Mais est-ce que nous aurions fait mieux ? En effet, toutes les prophéties que nous avons mentionnées et qui nous semblent parler si clairement de Jésus peuvent en fait être interprétées de diverses manières. L'évangéliste Luc, au chapitre 24 de son livre, raconte une histoire qui résume bien les questionnements soulevés par la personne de Jésus. Après sa mort, deux disciples désespérés quittent Jérusalem pour rentrer chez eux dans un village appelé Emmaüs. Luc raconte que Jésus, qui était ressuscité, s'est mis à marcher avec eux, mais ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur a posé des questions et ils ont partagé leur tristesse, leurs espoirs brisés après la mort de celui qu'ils croyaient être le Messie. L'histoire raconte qu'après les avoir écoutés, Jésus a commencé une longue étude biblique dans laquelle il leur a montré par les écrits de Moïse et des prophètes que le Messie devait bien être un roi, mais d'un royaume spirituel et que sa victoire et son règne passeraient par le déshonneur, la souffrance et la mort. Dans l'esprit des disciples, le scénario fantasmé de la venue du Messie avait remplacé ce qu'avaient réellement annoncé les prophètes. Alors, ils n'arrivaient pas à le reconnaître. Il leur a fallu du temps pour recoller les morceaux, faire les liens et reconnaître que la vie de Jésus était bien l'accomplissement des prophéties. C'est le lien que fait la foi pour regarder au-delà des sens et reconnaître l'évidence qui résonne dans l'intimité du cœur. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Malgré l'abondance des indices transmis sur des millénaires, la question reste la même. Qui est pour vous Jésus de Nazareth ? Est-il un personnage historique, un mythe, ou bien est-il le sauveur annoncé ? Mais il y a un dernier élément que nous pouvons tirer de ces prophéties annonçant le Messie dans la Bible. En effet, il y a aussi des prophéties dans le Nouveau Testament. Voici ce que Jésus promettait à ses disciples peu avant sa mort. Je lis dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, à partir du verset 1. « Ne vous inquiétez pas, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. » Dans cette parole étonnante, Jésus promet qu'il reviendra. Alors on pourrait se demander de quel retour Jésus est en train de parler là. Est-ce qu'il est en train de parler de sa résurrection, c'est-à-dire que les disciples verront mourir mais qu'il le reverrait après son retour à la vie ? Ou Jésus est-il en train de parler d'un autre retour ? D'autres textes du Nouveau Testament font plutôt penser à un retour futur. Par exemple, au début du livre des Actes, juste après l'ascension de Jésus, deux anges annoncent aux disciples que le Christ reviendrait de la même manière qu'ils l'ont vu s'en aller. Dans le chapitre 24 de Matthieu, les disciples demandent à Jésus à quelle date sera son avènement et le rétablissement d'Israël. Jésus leur répond que personne n'en connaît la date et que les disciples devront veiller même si son retour prendra du temps. Les lettres de Paul montrent sa conviction dans le retour de Jésus, comme lorsqu'il dit aux Thessaloniciens que cela marquera aussi la résurrection de nos êtres chers qui se sont endormis dans la mort. C'est dans la première lettre aux Thessaloniciens chapitre 4. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, annonce même que le retour de Jésus prendra tellement de temps que cette idée sera tournée en ridicule par tous ceux qui n'y voient qu'une chimère. Et effectivement, que dire d'autre après 2000 ans d'attente? À cela, Pierre répond, je cite, « Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard, mais en fait, il est patient avec vous. » Il ne veut pas que qui que ce soit meure pour toujours, mais il veut que tous aient l'occasion de changer de vie. Et bien sûr, nous pourrions citer l'Apocalypse, qui annonce le retour de Jésus de multiples manières. Jusque dans l'avant-dernier verset de la Bible, je vous le lis. Jésus affirme que tout cela est vrai, et il dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Toutes ces prophéties annoncent que Jésus le Messie reviendra. Nous sommes donc dans la même position que le monde du premier siècle de notre ère qui attendait le Messie annoncé. J'ai lu quelque part que le grand rabbin et théologien juif Abraham Heschel a été un jour invité à parler à une rencontre œcuménique de chrétiens. Il leur a dit « Nous, les juifs, nous attendons la venue du Messie. Vous, les chrétiens, vous croyez qu'il est déjà venu, mais vous attendez son retour. En fait, nous attendons ensemble. » Quand le Messie va venir, quelqu'un lui demandera sûrement s'il est déjà venu. Et Abraham Heschel a ajouté « J'espère que ce jour-là, je serai juste à côté de lui pour lui souffler à l'oreille « S'il te plaît ». Ne réponds pas. Oui, finalement, chrétiens et juifs attendent le Messie. Mais les chrétiens ont un avantage. En effet, le croyant d'aujourd'hui peut s'appuyer sur toutes les prophéties déjà réalisées en Jésus-Christ. Pour le croyant, le Messie annoncé des centaines d'années à l'avance est bienvenu. Les promesses n'étaient pas des chimères car elles se sont accomplies. Alors aujourd'hui, le passé nous donne l'espérance du futur. Toutes les promesses déjà réalisées nous disent que les autres promesses se réaliseront aussi. Si le Messie a été annoncé et qu'il est réellement venu, alors s'il a promis son retour, il reviendra. Et ce jour-là, comme le dit l'Apocalypse, Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux, la mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Alors non, Noël, ce n'est pas juste une jolie histoire du passé. Lorsque nous fêtons Noël, nous nous rappelons que ce qui s'est déjà accompli nous donne une ferme assurance pour ce qui s'accomplira encore. Joyeux Noël et que Jésus vous remplisse aujourd'hui d'espérance dans son prochain retour. Amen.
Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre, la terre et le ciel chantent. Oh, avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Seigneur, viens. la terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre.